on va pouvoir accueillir la première table ronde. Et maintenant, c'est Chloé qui va gérer, c'est bien, nous on devient un petit peu spectateur, pas tout à fait. Hein. Et on remercie au passage encore Chloé d'avoir bien voulu intervenir et gérer, animer ces tables rondes. Elle a contacté tout le monde, voilà, et elle a bien briefé tout le monde. Et je pense qu'on va avoir droit quand même à quelques témoignages intéressants, importants, et des débuts de questionnements et de débats. Des débuts, ça n'est que le début.
Bonjour, ravi d'être avec vous. Peut-être, donc, du coup, j'invite les participants à la première table ronde à me rejoindre parce que c'est surtout vous qu'on vient écouter. Vous dire oui, que je suis très heureuse d'être avec vous pour ces trois tables rondes organisées dans le cadre du lancement de ce beau projet Dédale. Alors, nous allons garder en tête le fait qu'il s'agit d'un lancement et que l'idée, la mission est donc d'ouvrir des discussions. Il est clair que nous ne ferons pas le tour de la question aujourd'hui, mais ça n'est pas le but à ce stade, je crois. Nous allons garder à chaque fois 10-15 minutes pour des échanges avec vous. Et voilà, comme ça va passer très vite, on vous demandera d'être les plus synthétiques possibles. La question de cette première table ronde, c'est comment désenclaver les territoires. Ou pour reprendre un extrait du chapeau qui a été écrit par Luc Robène et Solveig Serre, comment favoriser le développement de potentiels qui sont éloignés des centres et chaînes de décision, qui sont en zone enclavée et non prise en compte, non soutenue, invisible, qui sont empêchés pour des raisons liées à l'histoire, aux spécificités, aux contraintes géographiques, territoriales, culturelles ou géopolitiques. Alors, je vais essayer de pas vous cacher. Et donc, je vais vous présenter les uns les autres. Donc, Yolaine Lacolonge, vous êtes chef du service action pédagogique, artistique et culturelle au sein de la direction de la culture de la collectivité de Corse. Précédemment directrice générale adjointe culture et patrimoine de la ville d'Ajaccio, chef de service du cinéma et de l'audiovisuel de la collectivité territoriale de Corse. Vous êtes vous-même cinéaste et vous enseignez à l'université de Corse en licence art du spectacle et en master direction d'établissement culturel. Christophe Lamperrière, à côté de moi, vous êtes directeur de l'AGIA, Fabrica Cultural, qui est un label défini par la collectivité de Corse, une salle de spectacle située à Ajaccio et qui est donc un lieu de diffusion et de création avec une ligne pluridisciplinaire, musique, théâtre, danse, cirque, etc. Théo Poli, vous êtes membre du groupe Corse Panzetta Paradise, que nous entendrons donc en concert juste après cette table ronde. Mathilde Regnault, vous êtes docteur en histoire, conservatrice de bibliothèque, militante écolo à Belfort. Vous avez été élue d'opposition, pas qu'à Belfort on imagine, mais en tout cas votre territoire c'est Belfort, et membre de l'équipe du projet Dédale. Et Lucie Marinier, vous êtes titulaire de la chaire Ingénierie de la culture et de la création au CNAM. Vous dirigez l'école des transitions écologiques du CNAM. Vos recherches portent sur l'art dans l'espace public, l'organisation et les missions des musées, les transitions socio-écologiques dans le champ culturel. Vous avez 20 ans d'expérience avant ça de direction de lieux et de politique culturelle. Et vous allez nous accompagner sur les trois tables rondes avec pour mission, donc on a compris à quel point c'était important, d'aborder les différents sujets sous l'angle de la transition écologique. Alors, donc vous avez compris, on a une petite dominante corse dans ce plateau, donc on va commencer avec vous, Yolaine Lacolonge. Évidemment, la Corse est une île, elle a une histoire particulière. La question, pour aller tout de suite peut-être au cœur du sujet avec vous, c'est le comment, de comment désenclaver les territoires. Si l'on se place au niveau politique, qui est le vôtre, quels sont les leviers dont vous disposez en matière de culture? Donc, comment on crée, comment on invente avec cette donne-là? Lorsque l'on en a parlé il y a quelques jours, vous m'avez dit qu'il faut être créatif. Alors, comment?
Juste une petite précision, je n'interviens pas aujourd'hui au titre de mon institution, je préfère, c'est toujours mieux, puisque d'abord je ne suis pas politique, je travaille avec des politiques, mais là aujourd'hui en plus je n'interviens pas au titre de mon institution. Mais pour répondre à cette vaste question qui est quand même très très large, d'abord on resitue très rapidement le contexte. Bon, vous l'avez dit, s'il y a un territoire qui est à la fois enclavé en marge, c'est bien la Corse. C'est une île, une montagne dans la mer, donc un enclavement déjà intérieur, parce que très rapidement, 350 000 habitants, les deux tiers sont répartis sur les deux principales villes, Ajaccio et Bastia. Donc déjà, et pour, on raisonne pas en kilomètres quand on se dépasse en Corse, on raisonne en temps. C'est-à-dire que de toute façon, le prix à payer, par exemple, pour Ajaccio d'aller à Ajaccio à Bastia ou n'importe où, c'est 2h30. Donc voilà, on raisonne en temps. Donc déjà, on a un enclavement intérieur et quelque part aussi une marge qui vient de notre identité plurielle, de notre histoire complexe. Hein. On rappelle que la Corse, elle est française seulement depuis 1768. Donc avec cette histoire qui est faite en fait de d'invasion, qui est faite d'apports culturels différents, qui a créé aussi une forme de une richesse qui est formidable. Donc évidemment, c'est un territoire enclavé, ensuite avec une population qui est vieillissante. On a seulement 30% de la population qui a moins de 30 ans, donc voilà, ça aussi. Pauvre, 18% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté. Donc là, on situe quand même un contexte qui est réel. Donc voilà, encore une fois, c'est très compliqué. Et en plus, on a tendance à dire que la Corse, c'est un laboratoire à ciel ouvert, laboratoire de la décentralisation tout d'abord. Parce qu'il faut quand même rappeler que la Corse, elle est restée très éloignée des politiques culturelles, avec depuis la naissance du ministère de la Culture Malraux, la Corse, elle a été complètement oubliée des politiques culturelles. Ce n'est qu'à partir de la fin des années 90, véritablement, qu'on a vu les effets de ce que pouvait être une politique culturelle. Et donc, c'est un laboratoire, tout d'abord, de la décentralisation, avec plusieurs statuts. Le premier date de 82. Et le dernier, qui est toujours en vigueur, mais qui est susceptible d'évoluer, c'est la loi de 2002, qui est une loi de décentralisation très forte, qui a donné d'énormes compétences à la collectivité de Corse, qui est l'institution régionale, qui en fait est chef de file en matière de culture et de patrimoine. Donc, ce qui fait qu'on a aussi 360 communes, toutes petites, deux grosses communes, Ajaccio et Bastia, le reste c'est des petits villages, dont certains, la densité de population en Corse, c'est 39 habitants au kilomètre carré, la moyenne nationale c'est 118. Donc voilà, c'est, tout est dit. Donc avec évidemment des interventions de politique culturelle des communes qui sont quasi inexistantes, des intercommunalités qui sont assez récentes, donc la collectivité qui supporte en fait la majeure partie. Pour situer, alors depuis 2002, il y a eu évidemment, et donc comme je vous le disais, un éloignement, mais énorme, hein, je veux dire, des politiques culturelles et des financements, etc. Je veux dire, jusqu'à la fin des années 90, on était véritablement complètement abandonné, on va dire, hein, je veux dire, avec ce qu'on a appelé l'universitaire Anne Masterstein, qui a beaucoup travaillé sur la question corse, dit que en fait la politique culturelle de la Corse, elle s'est construite au départ sur l'utopie associative. L'utopie associative qui est née du mouvement associatif qu'on a appelé le reacquist, ou le réappropriement de la culture, de l'identité, de la langue, qui a permis en fait un grand mouvement populaire qui est né à la fois par cette volonté de se réapproprier une culture, mais aussi on va dire dans une volonté de protection qui est née aussi, il faut pas l'oublier, de mouvements, de populations qui ont voulu se protéger de problématiques environnementales, notamment la fameuse histoire des boues rouges, hein, donc ces bateaux italiens qui venaient déverser, je dirais, leur boue donc au large de la Méditerranée. Bref, il y a un vrai mouvement populaire qui a permis d'insuffler une politique culturelle qui après est devenue institutionnalisée. Et j'ai tendance à dire que quelque part aujourd'hui, c'est un peu les effets de ça, c'est que en fait de l'utopie associative, on est passé aussi quelque part aussi à un individualisme forcené, à une institution, institutionnalisation de la culture qui fait que ben on a aussi eu beaucoup d'argent, peut-être un peu trop vite, un peu trop à un moment donné concentré sur une certaine période. Ça a donné évidemment une émergence formidable, mais aujourd'hui il y a aussi une concurrence, parlons clairement, qui existe entre les acteurs culturels, entre les scènes, etc. Alors pour répondre à votre question sur la question du comment on désenclave et qu'est-ce qu'on fait, alors donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Moi, je citerai notamment sur la question du désenclavement intérieur, tout d'abord. Ouais. C'est la naissance des fabriques culturales qu'on a mis en place, qui permettent de travailler à la fois sur la création et la diffusion et sur l'interdisciplinarité. L'idée, c'était de créer des lieux où on puisse à la fois créer dans différentes esthétiques et à la fois diffuser ses œuvres. Alors, il en existe aujourd'hui 5 sur le territoire. 4 sont en zone rurale. Et une en zone urbaine, l'ADIA étant une fabrique en zone urbaine à Ajaccio, mais les 4 autres sont véritablement en zone rurale. Parmi elles, il y a l'ARIA, menée par le travail formidable de Robin Renouch, qu'il a initié dans son village autour du théâtre. Il y a une autre fabrique à Pieve, et dans, je dirais, qui est du côté de Saint-Florent, qui travaille sur les arts visuels. Une autre qui est à Venaco, qui travaille pareil sur le cinéma, l'écriture cinématographique, mais pas que, sur les arts plastiques, l'art contemporain. Et Voc, qui est le Centre national de création musicale, qui travaille sur toute la musique et notamment la musique traditionnelle.
Justement, on va poursuivre avec vous, Christophe Lamperrière, puisque vous êtes donc directeur artistique de l'Adja, Fabrica Culturale, à Ajaccio. Donc,
tout à fait.
Dans la lignée de ce que vient de dire Yonel Lacolonge, peut-être que insister sur cet aspect, donc lieu de création et de diffusion, et donc sur ces questions-là, création, production, diffusion, quelles sont justement les difficultés auxquelles vous faites face dû à cet enclavement, à cette situation, et l'enclavement antérieur, intérieur, vous en parlez aussi beaucoup. Comment est-ce que vous inventez? Vous m'avez dit justement, vous avez créé par exemple un réseau de producteurs, programmateurs.
Programmateurs. Alors, je veux juste rebondir sur ce que a dit Yolène, c'est que effectivement, par rapport à cet enclavement, on a aussi un gros manque structurel en termes de lieux adaptés à la création et à la diffusion des œuvres culturelles, puisque en Corse, on a véritablement, on va dire, 1, 2, 3, 4 vraies salles, on va dire Bastia 2, Cargèse, Propriane, en termes de Calvi maintenant, donc 5 vrais lieux, et Porto Vecchio, voilà, donc 6. Voilà, mais enfin Porto Vecchio, c'est la salle qui voit, ben, on va dire à moitié. Donc structurellement, et ce sont que des structures municipales. En termes de structures privées, dont fait partie l'ADIA, puisque nous sommes en association, nous sommes quelques structures où c'est parti à la base d'équipes artistiques qui se sont appropriées des lieux et qui en ont fait des lieux de diffusion et de création.
Ça existe depuis près de 40 ans.
Alors l'ADIA existe depuis 40 ans, c'était anciennement une cave de jazz qui après petit à petit s'est professionnalisée. Est devenu maintenant l'ADIA. Donc l'année prochaine, on aura donc 40 ans. Voilà. Et effectivement, on a beaucoup de soucis pour justement promouvoir, diffuser déjà en ce qui concerne au niveau de la création corse, insulaire, que ce soit en théâtre, en musique, en danse, la danse qui est un secteur assez pauvre, qui se renouvelle bien, voilà. En théâtre et en musique, c'est vrai qu'il y a, il y a eu quand même beaucoup de renouveau, beaucoup de changements. Et on a décidé de se réunir en tant que programmateurs pour essayer d'harmoniser un petit peu aussi au niveau de nos programmations et de nos accueils en résidence de création pour qu'il y ait une irrigation au niveau de tout le territoire. Puisque, comme le disait Yolène, Bastia-Ajaccio, c'est 2h30, Ajaccio-Porto Vecchio, c'est 3h30. Donc déjà, on a un problème, un souci de transport en termes insulaires, mais on a aussi un souci pour accueillir les équipes autres, donc d'ici ou d'ailleurs, puisque c'est soit en avion, soit en bateau, on n'a pas de choix. Donc ça veut dire aussi des temps de présence des équipes qui viennent du national ou de l'international un peu plus longues, donc des moyens qu'il faut mettre aussi un peu plus conséquents pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. Donc ce réseau de programmateurs qui existe depuis maintenant quelques temps, on essaye un petit peu d'avoir des réunions pour essayer de faire circuler donc au niveau des résidences de création et après de diffuser les créations.
Mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est mutualiser vos moyens?
Mutualiser nos moyens de façon à permettre à ce que la création puisse exister, puisse vivre. Et après, notre gros souci, c'est comment l'envoyer ailleurs, puisqu'on n'est pas beaucoup de lieux en Corse. Donc une fois que la douzaine, on va dire, de lieux pouvant accueillir ces créations, voilà, il faut que ça aille ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de se rapprocher de certains réseaux nationaux. Je pense au réseau Traverse en PACA, le Chaînon Manquant aussi, qui est un autre réseau auquel on essaie d'adhérer, de participer, et de créer vraiment une synergie pour pouvoir non seulement promouvoir notre création insulaire, mais aussi accueillir la création venant du continent ou de l'international.
Et de ce point de vue, les freins que vous identifiez, c'est quoi? C'est avant tout financier ou
c'est alors il y a le structurellement, tous les lieux sont différents et pas tous les lieux peuvent accueillir les mêmes productions en termes de grandeur de plateau et d'équipement scénique, soit en musique, en théâtre, en danse. Donc ça aussi, c'est un frein. Et effectivement, financièrement, nous sommes Fabrica Culturale depuis 2017. Donc on est financé par la collectivité de Corse ainsi que par la ville d'Ajaccio pour mener des actions de résidence de création où on prend en charge des transports, des hébergements, on met en place toute la technique nécessaire à la production, à la création de ces œuvres. Mais d'autres lieux ont moins de moyens que nous. Donc ça, il y a des disparités comme ça en fonction des lieux et des équipes qui nous posent un réel souci. Et quand on accueille des compagnies ou des groupes en résidence extérieure à Lille, pareil, en termes d'hébergement, de voyage, les voyages, c'est quand même un coût une enveloppe financière très très importante pour nous. Donc on est obligé de sacrifier un peu sur l'artistique.
Pour terminer juste rapidement avec vous, on est d'accord que donc il y a ces difficultés effectivement au sein même de l'accord sur l'île déjà à faire voyager, et donc ensuite encore plus quand il s'agit d'accueillir des artistes du continent ou de faire voyager les créations. Néanmoins, et ça tient au fait que vous soyez Fabrica Cultural, je crois, vous avez dans votre lettre de mission, enfin dans votre cahier des charges,
oui.
De toute façon, il faut que vous favorisiez la création insulaire. On est d'accord.
Alors, c'est pas écrit vraiment noir sur blanc, mais en tout cas, étant un lieu travail, enfin étant sur le territoire corse, il nous semble normal aussi de favoriser la création insulaire, bien entendu. Donc ça, c'est en filigrane, bien entendu, c'est dans notre cahier des charges, mais on est libre aussi dans notre choix de programmation, même si quelquefois on nous demande d'insister un peu plus sur la langue corse ou d'insister un peu plus sur la création en langue corse, voilà, etc., etc. Mais on reste quand même libre dans nos choix de programmation et d'accueil de résidences de création.
Et on peut se dire que favoriser la création insulaire, c'est justement aussi réussir à la faire voyager.
Et réussir à la faire voyager, c'est notre mission aussi.
Alors Théopoli, donc vous qui êtes musicien, on va vous entendre tout à l'heure, peut-être plus une intervention, finalement en rebond à ce qui vient d'être dit là depuis le début de témoignage en fait, parce que vous vivez tout ça en tant qu'artiste. Donc
Ouais. Donc moi je suis le chanteur du groupe Pansetta Paradise, on fait un petit concert après, on fait du garage rock en langue corse. Donc oui, nous du coup on est au cœur de ça, parce que là ça fait 2 ans qu'on a lancé le projet. C'est un projet qui nous tenait à cœur, parce que c'est un projet qui a déjà été fait, je veux dire le rock en Corse ça existe depuis, bon, je pense, les années 80, allez 70 même. C'est pas très connu, mais on y travaille. Et voilà, c'était un projet qui nous tenait à cœur, et c'est vrai qu'on savait pas trop où on allait au début en partant sur ce délire-là de chanter dans une langue que nous on parle, mais qui est quand même pas très répandue, faut le dire, qui est déjà pas répandue en Corse, alors bon, ailleurs c'est foutu. Mais oui, voilà, c'est bien quand même qu'il y ait des structures qui favorisent la création insulaire, d'artistes insulaires, et qui permettent de faire quelque chose quand même si.
Et sur cette question de la mobilité, là, ce dont on parle, c'est-à-dire la difficulté aussi, du coup, pour les artistes, peut-être, et comment vous le vivez, cette difficulté de pouvoir se déplacer à l'intérieur même de la Corse et d'aller au-delà de la Corse.
Ben oui, c'est vrai que la mobilité, c'est le problème. C'est rigolo, parce que là, cet été, on a fait une tournée, donc du coup, ça nous fait un peu d'heures de route, ça nous fait faire des tournées, on a l'impression d'être. On a un peu l'impression d'être aux États-Unis, donc c'est cool parce qu'on est là, on fait des road trips et tout. Mais en fait, on va vraiment pas loin, quoi. Mais c'est juste qu'on met des jours, quoi.
Et très concrètement, vous auriez envie, vous avez le désir, par exemple, de venir jouer sur le continent, et c'est possible, c'est pas possible, ou de toute façon, vous voulez avant tout jouer en Corse. Enfin, comment ça se pose pour ce sujet?
C'est possible, on le fait d'ailleurs, on l'a fait quelques fois. Bon, nous, avec mon groupe, nous, là, on est parti à Nice faire nos études, donc c'est sûr que ça aide. Nous, ça va, on a la chance quand même de pouvoir bouger. Mais beaucoup de groupes qui sont même un peu plus jeunes que nous et tout, c'est vrai qu'ils sont quand même très, très restreints. Déjà, en plus, s'ils font de la création, c'est pas facile déjà en Corse juste d'être programmé. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas trop ce qui est à la mode, création, j'ai l'impression. Donc c'est vrai que partir ailleurs pour certains groupes corse, ça doit être un peu. Enfin, je sais que c'est compliqué pour certains. Nous, ça va, on a réussi un peu à bouger, mais bon, c'est pas facile.
Alors, on va changer un peu de territoire, mais pas complètement de problématique avec vous, Mathilde Regnault. Donc, vous êtes sur le territoire de Belfort, situation géographique différente, bien sûr, mais qui pose aussi la question de ce rapport au centre, et quel centre, d'ailleurs, quel rapport à la culture. Lorsque l'on a discuté pour préparer cet échange, vous m'avez raconté une histoire, enfin, un événement qui s'est produit il y a quelques mois et qui est assez parlant, enfin, qui a sa place, en tout cas, dans cette discussion, sans doute.
Oui, alors pour replacer un petit peu le contexte, je ne vais pas parler que de Belfort, mais du bassin de vie et du bassin d'emploi qu'on appelle le Nord-Franche-Comté. C'est un petit peu particulier parce que c'est 3 départements, 5 collectivités. avec deux centralités que sont Belfort et Montbéliard, et qui a un territoire qui a des problématiques particulières, puisque l'enclavement, il est aussi, j'ai envie de dire, pas seulement géographique, mais ce territoire cherche à exister au milieu des trois métropoles que sont Mulhouse, Besançon et puis Dijon, par exemple. C'est un territoire qui est en déclin extrêmement fort, déclin démographique et déclin industriel. Belfort-Montbéliard, c'est Peugeot et c'est Alstom, hein, donc à l'heure actuelle, c'est en pleine requalification, tout ça. C'est un territoire dans lequel il y a une pauvreté très forte. On vous en parliez pour la Corse, mais la ville de Belfort, c'est un quart des habitants sous le seuil de pauvreté, hein, par exemple. Donc, un sujet quand même important. Un territoire avec des inégalités territoriales extrêmement fortes, d'une collectivité à une autre. Et ce qui n'arrange rien, c'est historiquement des difficultés intenses de coopération entre les différents acteurs. Et ça, en matière de culture, par exemple, je pense que ça peut être quand même un handicap assez fort. Alors, c'est pas un territoire qui est enclavé au sens mobilité du terme. On a une gare TGV, par exemple, qui est entre les deux centralités pour mettre tout le monde d'accord. Donc, en 2h15, on est à Paris. Mais la problématique, moi, je ferai un petit pas de côté en disant que c'est pas tant de désenclaver le territoire, des fois, que de désenclaver les populations. Parce que l'isolement, il est pas juste géographique. Il est aussi mental, bien souvent. Et vous pouvez avoir, ce qui est notre cas, plein d'infrastructures. C'est pas le cas de tout le monde, mais enfin, on peut avoir plein d'infrastructures. Mais si vous avez pas tous les services autour à proposer aux gens, et ben de toute façon, vous ne faites pas grand-chose. Et alors, évidemment, pour désenclaver, il y a 40 ans, le territoire de Belfort, dont on parlait pas beaucoup, la grande idée qu'il y a eu en matière de culture, ça a été les Eurockéennes. Ça a marché, parce que je pense que vous tous, ici, vous avez déjà entendu parler des Eurockéennes. Donc, un festival qui fonctionne très bien. Et en fait, là, ce qu'on voit dans le département du territoire de Belfort, c'est cette volonté d'essayer de continuer toujours en fait sur ce schéma-là, c'est-à-dire essayer d'organiser toujours des grands événements qui vont réussir à faire venir du monde, mais ces grands événements, ils font aussi venir des créateurs de l'extérieur, quoi. Alors, c'est des choses qui fonctionnent, hein. En tout cas, ça peut donner une image du département et du territoire, mais on s'aperçoit aussi que ça se fait, et politiquement, par exemple, l'opposition porte beaucoup ce sujet-là, au détriment de ce qu'on pourrait aussi appeler une certaine culture du quotidien. Et par exemple, on s'aperçoit qu'il y a des structures. Alors, moi, je suis très attachée aux bibliothèques municipales, qui sont des structures qui, en fait, sont un super moyen de faire vivre les tissus culturels locaux. Par exemple, à Belfort, la bibliothèque a vu son budget, son personnel fondre complètement, parce que ce qui est mis en avant, c'est ce qui apporte de l'attractivité. Alors ça, je trouve que ça pose des questions intéressantes, en fait, de savoir est-ce que la culture est un outil dont on attend qu'elle nous amène l'attractivité et les retombées économiques, ou est-ce qu'on peut aussi voir, enfin c'est pas antinomique d'ailleurs, la culture comme une fin en soi, c'est-à-dire proposer la culture comme expérience commune, partagée, autour d'un secteur culturel, par exemple la musique, et où là, on va peut-être plus facilement toucher aussi les créateurs de son territoire et son public. Enfin, juste un petit exemple très rapide. On a une commune, Auxelles-Haut, commune de moins de 300 habitants, qui est loin des centralités, qui est en altitude. Enfin, quand je dis loin des centralités, c'est 25 km de Belfort. Mais vu nous, à notre échelle, c'est loin des centralités. Et cette commune, elle a fait le choix de faire un truc tout simple. Enfin, au départ, c'était même pas la commune, c'était des gens qui ont dit, on fait venir un groupe de potes. Et puis, on a un autre pote qui est producteur, et puis un autre qui fait des bijoux, et puis on a fait un petit marché autour de cette musique. Et puis, en fait, ils ont lancé ça il y a 5 ans. Et maintenant, les mardis d'Auxelles est devenu quelque chose d'absolument énorme. Il y a régulièrement 1 millier de personnes qui viennent. C'est complètement gratuit. Ça se fait dans le village. Il y a plusieurs groupes de musique, mais c'est toujours des groupes locaux, et on s'aperçoit que là, on touche un public extrêmement différent. Pour le dire, par exemple, le public des Eurockéennes, hein, 120 000 personnes par an, c'est un tiers qui vient du territoire élargi. Le public d'Auxelles, on a 1 000 personnes dans une commune de moins de 300 habitants, c'est un public extrêmement local, donc on a vraiment des différences très importantes. Mais pour revenir sur l'exemple dont vous parliez, et qui là pose d'autres questions, il a été fait allusion tout à l'heure à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et moi, je voulais parler de la cérémonie d'ouverture de la ville capitale française de la culture cette année, parce qu'il se trouve que c'est l'agglomération de Montbéliard. Donc c'est mon territoire, c'est là d'où je viens. Et en fait, on a eu un moment assez édifiant, qui a donné lieu à une très grosse polémique, c'est-à-dire cette cérémonie d'ouverture de Pays de Montbéliard agglomération capitale de la culture, il y avait derrière un choix finalement très audacieux de la part du politique, c'est de la confier à une personnalité bien connue, localement, qui s'appelle Hervé de Lafont, c'est une actrice du Théâtre de l'Unité, une comédienne qui a 80 ans, quelqu'un qui a du métier et de la personnalité, qui aime beaucoup la provoque, etc., quelqu'un qui a toujours eu un pied dans l'institution et l'autre pied complètement en dehors. Et elle a appelé, ça aurait quand même dû mettre la puce à l'oreille de tout le monde, sa cérémonie d'ouverture s'appelait Joyeux Bazar. Pour qui connaît Hervé de Lafont, on savait que ça risquait de tourner bizarrement. Et de fait, ça a tenu toutes ses promesses. Elle a dit elle-même, c'est un joyeux foutoir. Alors, évidemment, il y a plein de choses qui ne se sont pas tout à fait passées comme prévu, mais c'est toujours un peu comme ça avec le théâtre de l'Unité, les gens savent. Mais c'est même allé un peu plus loin. Il se trouve que Gabriel Attal était présent. C'était son premier déplacement de Premier ministre sur enfin relié à la culture, puisque Rachida Dati n'était pas là. Et Hervé de Lafont, eh ben elle a fait du Hervé de Lafont, c'est-à-dire quand elle l'a vu arriver devant les milliers de personnes qui étaient là, il lui a dit « Et toi le gosse, j'apprends que t'es venu en avion, alors qu'ici il y a le TGV, que nous on parle de sobriété, pour qui tu te prends? Est-ce que tu te prends pour le Premier ministre ?» Donc, évidemment, vous imaginez l'ambiance que ça met, et là tout de suite, l'ensemble des politiques présents essaient de lui enlever le micro, essayent de la faire taire. Évidemment, elle a beau avoir 80 ans, Hervé de Lafont, il n'est pas né, celui qui arrivera à la faire taire. Donc, ça se continue, bon an, mal an, ça se passe plus ou moins bien. Mais alors, dès le lendemain, dans toute la presse locale et même un peu au-delà, énorme polémique, et l'ensemble, pas l'ensemble des élus, il faut quand même signaler que le président de PMA lui-même ne s'est pas prêté à la curée, mais le député local, un élu local qui est maintenant devenu député, la maire de Montbéliard, ont signé une lettre d'excuse publique à Gabriel Attal, qui lui n'a pas eu l'air d'être très perturbé par ce qui s'était passé, hein, soit dit en passant, et on demandait la démission d'Hervé de Lafont, enfin, c'est allé très loin, et on a vu, dans cette polémique, revenir ce grand argument de « mais elle est payée par des subventions publiques, pourquoi elle n'a pas fermé sa gueule ?» Et je prends cet exemple parce que je trouve ça extrêmement intéressant de ce que ça dit encore aujourd'hui de la culture. Alors d'une part, la polémique, elle est super pour la culture. C'est un super accélérateur de culture parce que ça remet dans le débat public ces questions de savoir qu'est-ce que c'est la culture. Quand on est décideur politique, jusqu'où on est prêt à aller, en fait, qu'est-ce qu'est liberté de création, on peut laisser. Et puis par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'il fallait désenclaver les populations, mais je crois qu'il faut aussi, peut-être avant tout, désenclaver les schémas mentaux, et probablement les schémas mentaux d'un certain nombre de nos décideurs par rapport à ça.
Bon. Alors, peut-être que vous aurez envie de réagir, mais avant, on va finir ce premier tour de table avec vous, Lucie Marinier. Donc, si on regarde évidemment ce sujet du désenclavement par le biais de la transition écologique, on pense, et on en a parlé hein, depuis le début, mobilité, donc le train, l'avion, etc. Est-ce que de prime abord, il n'y a pas quelque chose qui frotte un peu entre le fait justement de dire on veut faire voyager les créations, etc., et les artistes, dans un moment où en même temps on est plus en train d'essayer de resserrer sur quelque chose de circulaire et de moins consommateur d'énergie. Donc comment on fait ça?
Quand on met en relation l'enjeu de la culture et du territoire, on est au cœur du nœud qui est que c'est une injonction contradictoire. Par définition, de toute façon, l'art et la culture ont toujours posé des injonctions contradictoires. Et l'exemple d'Hervé de Lafont est, enfin, voilà, avoir une parole officielle d'un artiste, c'est une injonction contradictoire par définition, puisque sinon, s'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de création. Donc voilà, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas. Et donc la question écologique, surtout en relation avec les enjeux territoriaux, elle repose un frottement supplémentaire. Et pour ça, il faut se poser la question de savoir si on a envie. Et c'est là où ce projet de recherche est intéressant. Est-ce que c'est une contrainte, un frein, ou est-ce que c'est potentiellement un levier, notamment en passant par les marges, en passant par à côté. Et je remercie vraiment de ce point de vue-là et Solveig et Luc d'avoir considéré que cet enjeu-là, c'est pas un Jiminy Cricket de nos enjeux, c'est pas juste oh, au fait, on vous rappelle, finalement, il y a l'écologie. C'est de dire, est-ce que ça peut être un nouveau fil rouge, avec des lignes rouges, ou un nouveau fil vert qui permet de trouver un autre chemin, d'autres ouvertures. Parce que quand on parle d'écologie, on parle forcément de territoire. On parle forcément de territoire et on parle forcément de culture. L'écologie, c'est d'abord trois crises, pas que climatiques, mais aussi de ressources et des enjeux de biodiversité. Ces deux grandes familles de crises sont encore plus importantes pour le secteur culturel que n'est la question du bilan carbone. Mais c'est aussi l'intersection des enjeux socio-écologiques. En France, pour plein de raisons, y compris de traduction, on a abandonné la notion du développement durable, et tant mieux, parce que ça pose aussi plein de questions sur une vision technocentrée, économico-centrée de l'enjeu. Néanmoins, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que ce que permettaient les notions de développement durable et des objectifs de développement durable, c'était de penser non seulement la question des impacts écologiques directs, mais aussi des impacts sociaux et territoriaux que ces crises posaient, et notamment en termes d'accès à l'éducation, en termes de reconnaissance des identités, en termes de citoyenneté, en termes de diversité, en termes d'éducation. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à pas perdre en route quand on pense ces enjeux d'écologie de territoire par rapport à la culture, c'est-à-dire de dire que l'impact culturel, l'impact des activités culturelles, il est réel, il faut le mesurer, il faut le penser, il faut penser à le réduire, il faut réfléchir à la sobriété, mais le et ça c'est le footprint, mais le brand print, il existe aussi. Et comment le champ de l'art et de la culture en soi ont un impact positif, notamment en passant par les marges, notamment en passant par ce que Guillaume Desanges au Palais de Tokyo, un peu de façon grandiloquente, mais quand même, appelle la notion des mauvaises herbes, de la permaculture, des espèces endogames et indigènes. Donc toute cette question-là, elle est vraiment intéressante et elle nous pose la question de l'espace, effectivement des déplacements, de la mesure, mais elle nous pose aussi la question des contenus pour, comme le disait Bruno Latour, prendre conscience du fait qu'on est dans la zone critique. La zone critique, c'est cette toute petite bande de terre sur laquelle on habite tous, qui a un énorme problème, c'est qu'elle est toute petite et qu'on est en train de la réduire, et un énorme avantage, c'est qu'elle est préhensible, compréhensible, culturellement, en termes d'espace finalement tout petit.
Et ça pose aussi la question, pour revenir sur ce que disait Mathilde Regnault, peut-être la question de l'échelle aussi, parce que en vérité, quand on réfléchit que avec des centres, quand bien même ce serait un petit centre comme ce que vous décriviez pour en fait Belfort et ou Montbéliard et pas grand chose autour, est-ce que une voie possible aussi, c'est de repenser en termes de maillage de territoire et c'est ce que vous appeliez cette culture du quotidien aussi, c'est-à-dire pas sortir un peu de la logique des grands événements en fait.
Ce qu'on constate en tout cas quand on regarde un peu de près et on essaye de le faire aussi à travers des programmes auxquels on participe, je pense à Alternative Verte puisque Fabrice Kezadbeg est là, c'est que ce qu'on constate c'est qu'aujourd'hui les acteurs les plus innovants, c'est pas les plus gros, c'est souvent des petites marges, soit parce que c'est des petits réseaux, soit parce que c'est des métiers spécifiques, notamment les métiers de la technique, les métiers des métiers d'art, soit parce que c'est des tiers-lieux qui de toute façon sont dans la sobriété parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix de toute manière et parce qu'ils sont dans une utilisation temporaire de la ressource, qui peut être le lieu ou etc. C'est aussi les bibliothèques qui sont beaucoup plus des équipements ouverts à la marge qu'on ne le croit trop souvent. D'abord parce que c'est le seul équipement public qui existe dans notre pays, toutes disciplines confondues, où vous pouvez rentrer sans qu'on vous demande rien. Voilà, que vous soyez migrant pour brancher votre téléphone portable ou que vous soyez scolaire ou que voilà, et c'est intéressant aussi que derrière le vocable industrie culturelle et créative, qui est un grand vocable dans lequel on doit mettre aujourd'hui toute la culture, ce qui pose plein de questions, on en reparlera, on n'oublie pas ces acteurs-là qui sont des acteurs qui sont ouverts à la notion de la marge dans la proximité.
Avant qu'on passe aux questions, peut-être Yolaine Lagoulon, je ne sais pas si vous avez envie de réagir par rapport à tout ce qui a été dit, et aussi selon votre envie de réagir, mais justement si on voulait un petit peu zoomer aussi, et on a parlé des bibliothèques, vous vouliez peut-être aussi parler d'exemples plus précis concernant le livre, justement.
Alors, juste, moi j'adhère tout à fait à ce qui a été dit, parce que on a, comme je vous le disais, on est un petit territoire de laboratoire à ciel ouvert, et l'exemple de se dire, nous ce qui marche très bien, ce sont les foires. Et les foires encore, ce sont des événements extraordinaires, c'est-à-dire la foire de mon village à Bocognane, c'est une très grosse foire qui chaque année, c'est des milliers de personnes. Et traditionnellement, il y a toujours des signatures de livres, des concerts, des lectures, des artisans d'art qui se présentent, donc c'est véritable. C'est l'exemple parfait d'une culture qui existe. On n'a pas besoin forcément d'une culture événementielle, d'une culture élitiste pour pouvoir faire culture. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Mais malgré ça, sur la question de la marge, et là où c'est très intéressant, c'est qu'il ne peut pas coexister, on va dire, une culture à double vitesse. C'est-à-dire, d'un côté, les artistes qui se débrouillent un petit peu par eux-mêmes, etc., et dont on dit, oh, ben, c'est super, etc. Et l'exemple parfait, c'est les intervenants dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle, qui sont typiquement ceux qui, font, travaillent, transmettent et sont les moins bien payés, d'accord, par rapport à des artistes reconnus, etc., qui vont faire un peu de médiation culturelle en bord de scène ou je ne sais quoi. Quand je dis la scène, c'est pas la scène.
Le plateau.
De plateau. Donc là, évidemment, avec toute la reconnaissance qui s'impose. Donc là, il y a quand même la question des moyens. C'est-à-dire que la question des moyens, elle est centrale aujourd'hui. Et la question de comment on pense les politiques culturelles à ce niveau-là sur les territoires, territoire, dans une logique, peut-être dans une perspective ou une logique d'appréhension qui soit de circuit court aussi, parce qu'il y a cette notion-là qui rentre évidemment, ça c'est quelque chose d'important. Pour revenir, mais quand même, tout ça doit coexister ensemble, c'est-à-dire à la fois une culture de proximité, à la fois la possibilité aux artistes de montrer leur travail et leurs œuvres et de pouvoir évidemment la montrer au plus grand nombre et pas forcément, je dirais, qu'à leur public captif de proximité. Et ça, c'est toute la difficulté. On avait discuté ensemble de l'exemple du livre, parce que c'est vrai que parmi toutes les esthétiques, le livre en Corse a eu, je dirais, depuis une vingtaine d'années, un développement assez fulgurant, évidemment, avec la locomotive qui a été Jérôme Ferrare et Marco Biancarelli, qui sont deux auteurs, notamment Jérôme, qui a eu un prix Goncourt, donc évidemment ça aide, hein, on va dire, mais qui au départ était publié sur les petites maisons d'édition Corse, Albiagne, pour la cité, donc qui a été la première maison d'édition à la fin des années 90, début des années 2000, qui a publié Jérôme Ferrare. Mais pour que Jérôme Ferrare puisse continuer sa carrière d'auteur, eh ben, évidemment, il ne pouvait pas rester chez Albiagne. Donc, il est allé chez Actes Sud, qui n'est pas forcément la plus grande maison d'édition, mais en termes de prestige, permet aussi un accompagnement, je dirais, à la hauteur de son talent. Donc, ça montre bien aussi, et les éditeurs sont nombreux en Corse, ils se sont regroupés, donc il y a une association des éditeurs, mais ils sont dans la réelle difficulté de ce circuit professionnel, puisque là on est pile poil dans les industries culturelles et créatives, hein, le livre c'en est un très bon exemple, donc ils sont noyés évidemment dans cette masse, et pourtant ils sont vecteurs de promotion de talents émergents. Jérôme en fait partie, aujourd'hui il y en a d'autres, parce qu'il y a une profusion, je dirais, d'auteurs aujourd'hui qui émergent en Corse, qui est absolument génial. Donc voilà, c'est un très bon exemple des difficultés auxquelles on est confronté.
Mais du coup, est-ce que vous vous dites en fait, tant mieux justement, et c'est une fierté de se dire que Jérôme Ferrari l'a d'abord été édité là-bas, et qu'en fait, voilà, ça l'a propulsé, et il aurait peut-être pas eu le prix Goncourt parce que moins visible s'il était là. Est-ce que vous dites tant mieux, ou est-ce que vous dites en fait, ces maisons-là ne pourraient pas aussi devenir des grandes maisons et garder leurs auteurs?
Les
et
deux, mon connus. Général Bonaparte. oui, évidemment. Non, mais les deux, mais parce que évidemment, on est ravis de se dire qu'il y a des maisons qui font un vrai service public de la culture, parce qu'on en est là. Elles sont très soutenues financièrement, et heureusement. Mais à côté de ça, je veux dire, quand elles publient, elles éditent des jeunes auteurs, je veux dire, le nombre d'exemplaires vendus, ça fait peur. C'est-à-dire que c'est limité à la part congrue, et pourtant, c'est pas une question de qualité des artistes. Et c'est toute la difficulté. Et le problème, c'est que dans des périodes qui, on le sait tous, hein, je veux dire, vont être extrêmement compliquées, les années à venir s'annoncent pas forcément très drôles, hein, pour la culture, et le besoin du financement public de la culture, eh bien, il est réel dans un contexte où on sait pertinemment qu'il va être de plus en plus compliqué. Et on sait très bien, je veux dire, dans je crois que là, tous mes collègues des autres régions métropolitaines le disent, je veux dire, on est tous confrontés à la même problématique, c'est-à-dire la raréfaction des budgets, évidemment la culture qui trinque en premier lieu alors qu'elle représente même pas 2% du budget d'une collectivité. Enfin, voilà, ça c'est la réalité concrète. Donc évidemment qu'il faut trouver aussi de nouveaux moyens pour accompagner la culture et accompagner l'émergence, accompagner les marges, faire en sorte qu'on ne sombre pas dans un pessimisme qui va petit à petit nous tuer à petit feu, parce que c'est vrai que évidemment voilà, on se retrouve aux confins de cette situation-là. Mais comment on peut réinventer? Qu'est-ce qu'on peut créer? Quel réseau on peut créer d'entraide, surtout de solidarité? Parce que je crois que c'est aussi de ça dont on a besoin.
Et c'est ça qui ressort beaucoup de vos différentes interventions. C'est quand même le réseau, le faire ensemble, la rencontre dont il était question plus tôt. Mais c'est quand même un peu vers ça qu'on va, enfin là qu'on peut voir des ressources. Alors je ne sais pas si quelqu'un encore a envie de réagir avant qu'on passe peut-être aux questions. Oui.
Oui, moi je voulais juste rajouter quelque chose après Yolaine. C'est que effectivement notre territoire est contraint, enclavé. Ça, on l'a bien compris. Mais on a aussi un gros manque. Je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est sur la formation. On a un gros souci en termes de formation, qu'elle soit artistique, qu'elle soit administrative, qu'elle soit technique. C'est-à-dire qu'en termes de relève, pour nous, c'est très dur. L'âge moyen, tu le confirmas, Théo, mais l'âge moyen d'un technicien sur l'île, on va dire, c'est une quarantaine d'années. Hein. On a beaucoup de mal à trouver des administrateurs, des chargés de DIF, des attachés de prod, tous ces métiers-là. Et en termes d'éducation artistique et de formation artistique, que ce soit pour la musique, pour le théâtre, pour la danse, On a un conservatoire à rayonnement régional.
Tu as fait du conservatoire ?
Alors, j'ai pas fait le conservatoire d'Ajaccio, pour le coup.
Oui,
j'ai appris tout seul. Et je suis rentré très tard dans un conservatoire.
Laurent, voilà, mais souvent, vous êtes obligé de partir sur le continent en fait. Pour vous former.
Voilà, c'est, ouais, du coup, ben, c'est pour ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on a eu la chance. Bon, on est parti faire nos études, du coup, à Nice, au conservatoire. Mais parce que ben, c'est vrai qu'il y a quand même un gros manque de formation, je dirais, quand on arrive à un certain niveau, en toute modestie. Mais ça.
Et vous qui travaillez dans le cinéma aussi beaucoup, il y a aussi cette problématique peut-être de, par exemple pour les tournages, etc., il faut de la main d'œuvre entre guillemets, enfin des équipes en fait.
Ça, on en a des équipes. Le cinéma, alors c'est le contre-exemple parce que c'est l'exemple un peu vertueux, c'est-à-dire de l'esthétique qui a vraiment très 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 bien marché en Corse, qui est une espèce de conjonction, d'alignement de planètes avec la création d'une licence technique de l'image et du son, avec un diplôme universitaire en partenariat avec la FEMIS.
Et pourquoi ça a mieux marché que la musique alors, par exemple, que le reste
Déjà parce que je pense que c'était nouveau. Aussi parce que c'était le réacquist, la réappropriation culturelle, elle s'est d'abord faite par la musique. L'image, il y avait des artistes de l'image dans les années 70, mais qui ont été très très vite confrontés à les problématiques techniques, c'est-à-dire faire du cinéma en 35, il fallait avoir beaucoup de moyens à l'époque. Donc ils ont fait de la télé. Et donc après, tous les jeunes qui sont arrivés après eux, ils ont bénéficié d'un contexte incroyable. La première convention, c'est entre la collectivité de Corse et le CNC, elle date de 86. C'est une des premières avec la Bretagne, donc qui après, s'est développée. Donc il y a eu comme ça un effet assez incroyable. Formation, de l'argent, un bon fonds d'aide, de l'accueil des tournages, alors avec plus ou moins d'accueil favorable de la part de la population, parce que l'enquête Corse, Mafiosa, ça n'a pas forcément, on va dire, enchanté les foules. Hein, au niveau local, mais bon voilà, mais ça a permis aussi de former des techniciens du coup, c'est-à-dire des techniciens qui ont été formés à la fac, et ben ils ont été sur les plateaux de Mafiosa, ils ont été sur les plateaux de l'enquête Corse, et à partir du début des années 2000, donc on a eu un vivier formidable, donc après des aides qui ont été importantes, et des réalisateurs comme Thierry de Perret, Thierry à Cannes, Julien Colonne à Cannes, Frédéric Farouche à Venise cette année, donc c'est un point d'orgue assez extraordinaire, et surtout, j'ai envie de vous dire, là où c'est formidable, c'est que la langue corse est présente dans leurs films. C'est-à-dire que pour la première fois, on est véritablement dans ce qu'on appelle notre auto-représentation. C'est-à-dire que, alors que nous, dans le cinéma, on a vécu quand même un regard qui venait d'ailleurs avec plus ou moins, je dirais, de talent, pour le citer de façon un peu, le dire de façon un peu diplomatique. Mais là, on est dans l'auto-représentation, mais dans une auto-représentation aussi qui montre notre culture. Donc, ça veut dire qu'on peut dépasser et qu'il s'intègre parfaitement dans les circuits nationaux, internationaux de l'industrie culturelle qu'est le cinéma.
Merci beaucoup. On garde donc avant le concert un peu plus de 10 minutes pour les échanges. C'est aussi le but, je crois, que ça puisse que vous puissiez échanger entre vous avec des questions, remarques. Sinon, voilà, faut venir poser sa question.
C'est une question peut-être sur les questions d'identité, de lien à la musique, ce que vous évoquiez, et sur la question du désenclavement comme la culture venue d'ailleurs. Est-ce que dans un endroit où la culture n'est pas nécessairement conçue et pensée comme une profession, c'est-à-dire que la culture c'est pas forcément une classe d'artistes et les non-artistes qui seraient le public, c'est-à-dire la culture ça peut être aussi quelque chose qui est vécu dans une appropriation d'identitaire et une appropriation identitaire pardon et une fierté. Quels sont les enjeux spécifiques liés à ça, cette identité? Vous avez dit que la réappropriation culturelle est venue de la musique, sans doute parce qu'il y avait une fierté de l'identité culturelle dans la musique et une pratique, j'aime pas dire pratique amateur, mais les gens qui étaient des artistes sans qu'il y ait une classe d'artistes ou une profession d'artistes. Est-ce que cet enjeu spécifique, c'est peut-être la plus grande marge, les amateurs et les professionnels, est-ce que cet enjeu spécifique a apporté quelque chose à la réflexion sur la construction culturelle en Corse?
C'est une très très bonne question, parce que la question de la pratique, parce qu'en effet la musique elle vient d'une pratique traditionnelle, je veux dire c'est quelque chose qui fait partie, on va dire, intégrante de la vie quotidienne en fait, qui faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Et donc, évidemment, il y a une question de transmission. La culture corse, c'est une culture de la transmission orale. Et c'est pour ça que la littérature était un bon exemple, parce que c'est quelque chose de totalement nouveau. Sur la question de la pratique amateur, la musique, elle continue. Les confréries, les bars, les soirées à se roser, etc. La musique, elle continue de vivre. Mais là où ce que je peux dire, c'est que malheureusement, cette irrigation qui, je dirais, est totalement homogène, elle ne se traduit pas dans les autres esthétiques. Et malheureusement, pour le dire de façon un peu critique, hein, je disais tout à l'heure que je représentais pas aujourd'hui mon institution, donc ce qui me laisse une certaine liberté de parole, on n'a pas du tout travaillé sur justement ce lien entre pratique amateur et dite pratique professionnelle. Et ce qui fait qu'on a un vrai clivage, et dans toutes les autres esthétiques, pour le coup. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça invite et aujourd'hui à se réinterroger, parce que ce qui est naturel dans la musique ne l'est pas du tout dans les autres esthétiques. Ceci étant, je modérerai mon propos en revenant sur le rôle des bibliothèques et des médiathèques, dont on sait qu'aujourd'hui qu'elles sont des vrais lieux de culture, parce que les médiathèques, notamment, permettent des programmations de cinéma, de musique, etc., dans tous les domaines. Nous, on a la particularité, par exemple, d'une médiathèque qui accueille une école de chant. Dans la médiathèque, il y a une école de chant, Schola in Fest, donc qui est une petite école qui est menée par un artiste emblématique de la scène du chant corse qui s'appelle Féli. Ce lien-là, il est assez intéressant, et ce qui fait que on peut avoir des choses intéressantes à ce niveau-là entre de mélanges. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des ateliers d'écriture avec des amateurs. Il peut y avoir des choses assez intéressantes. Et là, nous, pour le coup, pour répondre à votre question, je pense qu'on a tout un champ à explorer qu'on n'a pas fait. Vous voyez, comme quoi, alors que ça nous semble peut-être trop naturel pour ne pas l'avoir fait, mais en tout cas, je pense qu'il y a véritablement une voie à travailler à cet endroit-là.
Pour poursuivre la question des musées, est-ce qu'ils rentrent dans le cadre ou est-ce que c'est vraiment une case patrimoniale assez éloignée parce que ça pourrait être des chouettes trucs sur des parcours de création. Il y en a qui le font. Vous parliez des intervenants tout à l'heure. Parfois, il y a des auditoriums. Donc, quid des musées en Corse? Et d'ailleurs, je vais reposer aussi la question pour le territoire de Belfort, du coup.
Je vous passerai la parole après sur la Corse, parce qu'il y a en plus un écosystème muséal tout à fait spécifique et intéressant encore sur ce point de vue-là. C'est pas forcément très connu. Et puis encore une fois, on est dans cette fameuse question que aujourd'hui les industries culturelles et créatives doivent tout inclure, y compris les musées. Donc on s'y efforce. C'est pas facile pour eux de le comprendre quand même. Encore aujourd'hui, mais ce qui est intéressant dans le secteur muséal, c'est qu'aujourd'hui, même si tous ne sont pas montés dans le bateau encore, il y a une nouvelle définition internationale des musées depuis l'année dernière, qui est une définition relativement audacieuse, mais qui pourtant, parce que ça a été travaillé pendant 10 ans au niveau mondial, fait aujourd'hui vraiment consensus sur le rôle culturel, social, politique, inclusif, y compris sur les enjeux écologiques du musée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez cette nouvelle définition du musée, vous la trouverez sur le site de l'ICOM, le Conseil international des musées, vous verrez qu'en réalité, elle inclut la marge. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, puisqu'elle parle, alors dans la traduction française, il y a quand même le terme communauté, mais il n'y a pas le terme groupe sociaux, enfin tout ça est très compliqué, je vous passe les débats sans fin que ça a pu donner. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur des territoires où l'enjeu patrimonial, l'enjeu de l'identité culturelle, l'enjeu de la diversité, l'enjeu du rapport à l'autre territoire, y compris au territoire dominateur, est aussi important, cette nouvelle définition des musées, je pense, crée un terreau favorable, y compris pour intégrer la part de création que les musées peuvent intégrer, qu'il s'agisse de musées d'art ou d'écomusées. Je me permets juste de donner ce contexte. Après, je pense qu'il y a des choses à dire sur la, en complément sur la.
Je ne sais pas si on a une spécificité en la matière. J'ai envie de vous dire que j'ai envie de vous dire que l'accès au musée, il est toujours difficile. Soyons clairs, je veux dire, les conservateurs, les directeurs sont toujours très très prudents et très protecteurs, ce qui peut se comprendre. Mais on a des exemples ces dernières années de choses très intéressantes. Le musée Fesch, le palais Fesch, qui est le musée des Beaux-Arts, par exemple, accueille chaque année à la fois des représentations de danse, de compagnies de danse contemporaine, accueille le conservatoire souvent, accueille les étudiants de l'université ou les étudiants de la classe préparatoire aux grandes écoles d'art pour des confrontations de travaux des élèves avec des œuvres du musée. Donc on voit qu'il y a des choses qui se font qui sont intéressantes, même si c'est toujours compliqué. Mais je pense que là, pour le coup, il n'y a pas véritablement de spécificité. On se retrouve avec les mêmes difficultés un peu partout dans les musées et aussi avec, là encore, je vais revenir avec la problématique des moyens. C'est-à-dire que quand on a un musée, moi je connais bien le musée, j'étais directrice de la culture et du patrimoine de la ville d'Ajaccio, c'est un musée que je connais très bien. C'est un musée qui est en grande difficulté financière. Donc quand on a à peine une demi-personne pour faire de la médiation culturelle, quand on sait que c'est très compliqué, on n'a pas de personnel pour pouvoir accueillir des gens, organiser, etc., qu'on n'a pas les moyens d'avoir une sono correcte, etc., tout devient un parcours du combattant où les initiatives ne peuvent fonctionner que sur la bonne volonté. Et heureusement qu'il y a des bonnes volontés, heureusement qu'il y a des gens qui ont envie de faire, qui ont envie de montrer, qui ont envie de se montrer, qui ont envie d'être participatifs. Mais si, autrement, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup d'endroits où des choses ne se feraient jamais. Donc là aussi, c'est une réalité. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, moi j'ai envie de dire, oui, on sait tous que c'est difficile. On sait tous qu'on nous bassine de matin au soir, que la France est surendettée, que le budget, que ceci, que cela. Mais si, le projet de société, avant tout, ce sont des hommes. Et si ce sont des femmes, des hommes qui ont besoin de communiquer entre elles, entre eux, qui ont besoin justement de culture pour pouvoir faire société. Et ça, je pense qu'on a un combat à mener qui est indispensable. Et on ne peut pas se taire et courber les chines sous prétexte que, on raréfie les moyens. Plus que jamais, on a besoin de moyens. Et plus que jamais, on a besoin de transmettre. Et plus que jamais, on a besoin de donner à nos jeunes, à nos enfants, les moyens de s'ouvrir l'esprit. Et ça, j'ai bien peur que les années qui arrivent, elles soient extrêmement dangereuses pour la société.
Quelques petits mots par rapport au musée. Là, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la culture du quotidien et l'événementiel. Les musées sont complètement là-dedans. On va avoir besoin de grandes expositions pour mettre en avant quand même le musée, pour faire venir du monde. Et puis, il y a toujours des services culturels dans les musées aussi et dans les villes. Et là, c'est une question de moyens, bien souvent. Moi, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été faites, par exemple, dans la ville de Belfort. Je me souviens qu'au moment de la réforme des rythmes scolaires par Vincent Payon, je crois que c'était à l'époque, avec l'école qui finissait plus tôt, il y avait des ateliers derrière. Par exemple, les musées là ont connu en fait un développement incroyable à ce moment-là parce que eux faisaient partie des structures. En fait, pour la ville, les musées, par exemple les bibliothèques, ça permettait de proposer des ateliers gratuitement entre guillemets parce qu'on a demandé au personnel des musées et des bibliothèques de faire ça en plus de leur travail naturellement. Mais il y a eu quand même un impact assez fort là derrière puisqu'il y a plein d'enfants qui ont été le musée est venu à l'école en fait. Donc ça a quand même facilité beaucoup les choses par rapport à l'accessibilité, donc il s'est passé des choses là-dessus. Mais la question des moyens est essentielle. Un petit exemple pour terminer, il y a dans une petite commune du territoire de Belfort qui s'appelle Étuffon, une forge encore en activité, je crois qu'il y en a que deux en France. Et ça s'appelle la forge musée, puisqu'elle fonctionne encore, et il y a tout un musée, en mode un peu musée art et tradition populaire, en fait, qui est fait là autour. Et en fait, ça, depuis que des bénévoles ont décidé de faire, de développer, de valoriser ça, ça marche extrêmement bien. Il y a des demandes de visite énormes, ils font des ateliers avec les écoles, ça plaît beaucoup, mais ça n'est que des bénévoles pour le moment. Et donc, ça montre les limites du système, et donc c'est quelque chose qui fonctionne, mais il faudrait pouvoir aller plus loin, mais pour le moment, il n'y a pas de modèle économique là derrière. Mais enfin, il y a une vraie attente, quoi, ce qui est plutôt rassurant.
Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous.